Pour la 28e édition du colloque Europa du vendredi 29 novembre 2024, nous accueillons Hélène Polia. Bonjour, vous êtes professeure de droit public à l'Université de Limoges et présidente d'Europa. Avec vous, Michel Seminon, délégué général d'Europa et directeur général adjoint de l'Université de Limoges. Merci à tous les deux de venir nous en parler.
Première question, Europa, qu'est-ce que c'est finalement ?
Alors Europa, c'est à la fois une association classique en droit français, mais c'est surtout une ONG du Conseil de l'Europe. Puisque la marque de fabrique d'Europa, c'est de regarder en Europe les évolutions de l'action publique. C'est notre marque de fabrique depuis bientôt 30 ans. Et nous avons ce que j'appellerais un secteur de niche auprès de cette organisation internationale qu'est le Conseil de l'Europe, où d'habitude les ONG qui la fréquentent sont des mastodontes comme Human Rights ou Caritas. Nous, on s'est fait connaître parce qu'on est les seuls à proposer une étude comparative de l'action publique en Europe, s'entendant comme l'évolution des fonctions publiques, des services publics, des politiques publiques, de tout ce qui concerne donc l'action publique sur le plan structurel, l'évolution de l'organisation des États, ce qui sont organisés sur le mode déconcentré ou décentralisé, est-ce que c'est des États fédéraux, des États unitaires, et comment du coup cette organisation impacte sur leurs politiques publiques, sur leurs fonctions publiques. Voilà, et on s'est fait connaître comme ça parce que au moment de la chute du mur de Berlin, les pays de l'Europe centrale et orientale cherchaient à reconstruire des démocraties et donc avoir des administrations neutres et impartiales. Et nous avons conduit avec Europa dans ces années-là des missions d'assistance législative pour expliquer comment, dans l'Europe occidentale, il fallait installer les notions d'intérêt général, de mission de service public pour garantir à la fois des administrations neutres à politique puis des services publics de qualité. Et ça nous a fait remarquer du Conseil de l'Europe, et depuis donc 2001, nous avons le statut d'OING, donc d'organisation internationale non gouvernementale, au sein du Conseil de l'Europe. Et c'est une qualité qui s'acquiert, mais qu'il faut maintenir, puisque tous les 4 ans, on fait l'objet de ce qu'on appelle une étude de monitoring, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de voir si on porte toujours les deux valeurs du Conseil de l'Europe, qui sont celles de l'État de droit et celles des droits de l'homme. Et donc, on sort juste de cette évaluation, et Europa est confirmé dans son rôle d'OING du Conseil de l'Europe. Alors, ça donne pas d'argent pour fonctionner, mais ça donne un label international, et ce qui est le plus important en termes de valeurs, vous aurez compris que Europa est une ONG très attachée aux valeurs européennes, et c'est au cœur de nos missions. Donc voilà, on est une ONG du Conseil de l'Europe, on est fiers de l'être et de le rester.
Donc demain pour la chronique, vous allez faire un colloque, mais le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites ?
Alors Europa, ce n'est pas que l'événementiel, colloque Europa, même si aujourd'hui, j'ose dire que c'est devenu une marque sur le territoire, c'est un rendez-vous attendu, puisqu'on sait que généralement, on va effectivement y traiter d'une politique public, sous une focale, comme je le disais tout à l'heure, européenne, et en essayant d'apporter des solutions aux problèmes que l'on traite. Mais surtout, on fait aussi de la formation et de la recherche. C'est pour ça qu'on est adossé aussi à l'Université de Limoges, et notamment au laboratoire de la présidente d'Europa, qui est à son laboratoire, qui est l'OMIGE, qui est l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques. Donc, on conduit des études. Et par exemple, pour vous donner, nous terminons à l'instant une étude pour Régions de France, donc l'association des présidents de conseils régionaux, une étude comparée sur 5 pays de l'Union européenne pour suivre l'évolution des politiques régionales de développement économique. Donc on est en train de remettre un rapport pour lequel on a reçu une commande. Et donc là, c'est l'idée de voir comment, justement, à partir d'une analyse comparée, on peut trouver des solutions qui amélioreront peut-être la répartition des compétences en France entre l'État et les régions notamment, mais le rapport ne dit pas que ça, sur cette problématique. Donc de la recherche, de la formation, et puis effectivement, notre idée, c'est aussi de vulgariser un peu ces notions d'action publique, et notamment, on a collaboré à une initiative de l'université qui s'appelait « Donne ta langue aux chercheurs », c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que on essaie d'expliquer cette évolution aux citoyens et cette démarche-là qui consiste de temps en temps à avoir des rencontres citoyennes, d'expliquer ce qui peut paraître complexe, mais de donner justement des explications sur comment fonctionnent les États, les services publics, parce qu'on est, vous l'aurez compris, attaché aux valeurs de démocratie et d'Europe.
Pour être plus précise, en quoi consiste le colloque exactement ?
Alors, l'idée du colloque, c'est d'essayer de mieux faire comprendre les relations entre les universités et leur territoire. Sachant qu'évidemment, une université est ancrée dans un territoire. Alors, si on laisse de côté le cas un petit peu particulier, évidemment, des universités en Île-de-France, bon, qui présentent des spécificités compte tenu du nombre et de l'importance quantitative et surtout du point de vue économique de la région. Les universités sont implantées dans des territoires. L'idée, c'est de savoir finalement ce qu'elles apportent au territoire, ce que les territoires peuvent attendre d'elles, et surtout comment elles répondent à un certain nombre d'injonctions qui peuvent paraître, par certains aspects, un peu contradictoires. Je vous prends un exemple. On entend souvent dire qu'il faut absolument que des universités françaises soient dans le classement de Shanghai, qu'elles arrivent dans les premiers au classement de Shanghai, etc., etc. Et en réalité, on leur demande en même temps d'assurer un service public de proximité en accompagnant les étudiants de première année. Ça peut être une des injonctions. On dit aussi que pour la recherche, par exemple, il faut de la recherche fondamentale, mais les territoires demandent aussi à être aidés dans de la recherche appliquée. Donc comment toutes ces injonctions, comment tous ces enjeux peuvent être coordonnés, accompagnés, et quelles sont les solutions également que les autres États européens peuvent nous proposer, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment des problèmes à peu près équivalents. Comment ça se passe chez eux? Comment les appréhendent-ils? Comment les résolvent-ils? Et est-ce que finalement on peut s'inspirer de certaines bonnes pratiques en France?
Cette année, le thème du colloque, c'est l'enseignement supérieur et recherche en Europe, les enjeux de l'ancrage territorial des universités. Vous parlez de l'Europe, mais également de l'ancrage territorial. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
Ça fait partie de ces interrogations et de ces tensions, entre guillemets, hein, qui peuvent effectivement atteindre les universités. Disons que l'Europe, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est d'abord tout le processus du LMD qu'on a eu pendant longtemps, donc des échanges qui ont été considérablement renforcés entre les différents pays de l'Union européenne. Et pour les étudiants, je crois que ça a été vraiment une révolution culturelle, si je peux m'exprimer ainsi, avec leurs premières expériences dans des États de l'Union européenne. Et ce qui en est résulté, c'est quand même que dans la plupart des cas, les étudiants sont d'accord pour dire que c'est comme ça qu'ils ont vu ce que c'était que l'Europe. Donc bon, ça, c'est un acquis maintenant. Voilà, si on met de côté le Brexit, hein, évidemment, qui a un petit peu limité le potentiel Erasmus dans ce pays. Mais au-delà de ça, c'est de se dire, il faut que nous travaillions avec des universités européennes. Naturellement, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires européens, qui d'ailleurs pour l'Université de Limoges s'est matérialisé par une alliance européenne avec plusieurs pays au sein de l'alliance UPIS, essentiellement tournée vers les valeurs de paix, de liberté et de justice. Mais dans le même temps, l'idée c'est quand même aussi de former nos étudiants alors à un certain nombre de valeurs. Et moi, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que nous apprenons, nous donnons à nos étudiants des compétences, du savoir, des connaissances, mais on leur inculque l'esprit critique, l'argumentation, la discussion. C'est aussi une école de la citoyenneté, et je dois dire que c'est peut-être ça qui fait le lien entre le niveau européen, le niveau national et le niveau territorial.
Est-ce que tous les étudiants sont invités à assister au colloque ?
Alors, tous les étudiants sont toujours invités à assister aux différents colloques. Alors, évidemment, avec des contraintes d'agenda, puisque là, on n'est pas très très loin de la fin du semestre. Donc, ils ont parfois d'autres obligations. Mais le colloque est toujours ouvert et ils peuvent passer et venir pour telle ou telle intervention qui leur paraîtrait la plus pertinente. Mais en général, on essaie de baliser ou de banaliser des demi-journées pour qu'ils puissent au moins y passer en fonction de leurs contraintes horaires.
Une particularité cette année, c'est qu'en plus, le colloque, vu sa thématique, est inscrit dans les formations des écoles doctorales de l'université. Donc pour nos doctorants qui s'inscrivent, c'est aussi considéré comme une journée de formation. Autre chose aussi, comme vous l'avez dit, on parle d'Europe, d'université et de territoire. Le CNFPT, qui est l'un de nos partenaires, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les agents territoriaux qui participent au colloque, soit en présentiel, soit en visio, c'est une journée aussi de formation qui est créditée pour eux s'ils participent sur la totalité de la journée.
C'est la 28e édition du colloque. Pourquoi à la base avoir créé ça?
Pourquoi avoir créé Europa? On ne se lève pas le matin en disant « je vais faire une ONG qui va parler de l'action publique en Europe ». Bah, comme d'habitude, c'est des rencontres et un destin. Sur ma route, j'ai rencontré en 1993, mais j'aime pas quand je dis ça parce que on mesure le temps qui passe. Une personnalité, pas des moindres, professeur Marcel Picmal, qui est un spécialiste des questions de fonction publique et qui avait été au cabinet du ministre qui avait créé la loi sur les fonctions publiques. Il avait créé une association qui était les Rencontres européennes des fonctions publiques, qui était déjà une vision futuriste d'imaginer un espace européen de rencontres entre les fonctionnaires en Europe. Et donc, cette rencontre qui s'était faite à Paris m'avait mis dans ce réseau. Et en 93, comme je le disais tout à l'heure, quant à la chute du mur de Berlin, on a créé Europa au départ pour venir porter la bonne parole des organisations administratives occidentales à destination des pays d'Europe centrale et orientale. Et la deuxième rencontre qui a fait qu'Europa est devenue aujourd'hui ce qu'elle est, elle est celle importante avec un homme auquel Hélène Polia comme moi vouons un vrai respect, c'est le président Robert Savy, qui était à l'époque président de la région Limousin, et qui a trouvé assez amusant de parler d'Europe dans un territoire dont on ne peut pas dire à l'époque, au résultat des élections européennes de l'époque, qu'il était particulièrement europhile. Donc cet esprit critique et malin, si j'ose dire, voyait d'un bon œil s'installer une ONG qui allait parler d'Europe sur un territoire dont on ne peut pas dire qu'il était prédisposé à le faire, et on ne peut pas dire que les frontières du Limousin le portaient à être limitrophe avec des pays de l'Union. Donc c'était un vrai challenge. Et grâce à Robert Savy et à son aide, nous avons fait d'Europa ce que cette ONG est aujourd'hui devenue.
Puis je crois qu'il y avait aussi une vraie réflexion, une vraie spécialité à Limoges, du fait justement du président Savy, puisqu'il était professeur de droit public initialement et très attaché au service public, à la fonction publique, etc. Il y avait une vraie logique finalement à ce qu'on s'intéresse à ces différents champs, bon, qui maintenant sont aussi des éléments, parce qu'il n'y a pas que ça, mais des thématiques traitées par l'équipe de recherche, donc au MIGE, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'était vraiment une sorte de continuité dans la réflexion sur ces thématiques et ces centres d'intérêt.
Après 27 colloques, est-ce qu'on peut voir une évolution dans les universités suite aux questions qui sont posées dans les colloques? Est-ce qu'on peut voir une évolution aussi dans la diversité, dans la politique entre les pays de l'Europe?
Uniquement sur le plan universitaire ou sur le plan de l'Europe, enfin des questions européennes en général?
Précisément sur les questions universitaires.
Ouais. Je crois qu'il y a des évolutions qui se font, et puis surtout l'encouragement, je crois que ça c'est vraiment une dynamique qui a été enclenchée il y a plusieurs années et qui a été reprise par les différents ministres d'ailleurs, c'est vraiment l'incitation à travailler avec des universités d'autres États de l'Union. Et je pense que ces possibilités qui ont été accrues sont vraiment très bénéfiques pour les étudiants. Parce que ça peut se faire non pas de manière purement théorique, on va leur dire voilà, ben en France, sur telle question juridique par exemple, vous avez telle réponse, et puis en Allemagne, et puis en Italie, et puis voilà, vous allez voir ça. Bon, ça peut se faire, c'est du droit comparé, il y a des spécialistes, très bien. L'idée qui nous est donnée, je crois que dans le cadre de l'Alliance à laquelle appartient l'Université de Limoges et donc à laquelle Europa s'associe, on est en train de s'associer, l'idée ce serait de faire ça peut-être de manière un peu plus ludique via des cas pratiques, par exemple de dire ben voilà, il y a une question qui se pose, hein, imaginez, je ne sais pas, telle question juridique ou autre, hein, peu importe, voilà, comment elle serait résolue en France, et puis faire travailler des petits groupes d'étudiants dans les différents États de l'Union européenne à un niveau d'études équivalentes, en disant bah, finalement comment ça se passe chez vous, quelles réponses vous apportez, etc. pour confronter et leur dire bah, finalement même si le droit n'est pas le même dans chaque État, même s'il y a des réponses différentes, finalement il y a peut-être aussi un socle commun qu'on peut retrouver partout. Je crois que c'est aussi un moyen d'irriguer l'idée européenne et de mieux faire connaître les systèmes, à la limite les systèmes juridiques ou autres, hein, mais les systèmes d'administration, de fonction publique et autres en Europe, pour essayer de mieux se connaître et de se connaître directement, c'est-à-dire sans passer par nécessairement des articles, des revues, des cours, etc. Je crois que c'est aussi pour eux le moyen d'échanger entre eux sur des thématiques. Je crois que là, cette idée progresse.
Est-ce que du coup, grâce au colloque, étant donné que vous avez des intervenants européens, est-ce que ça impacte le choix des partenariats qu'on peut avoir avec Erasmus?
Ça peut. Alors, il nous est arrivé effectivement à partir des collègues que nous invitions pour tel ou tel colloque, d'essayer de trouver des partenariats nouveaux et puis aussi des échanges, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que certains étudiants puissent aller dans une université qui était partenaire grâce à un collègue qui viendrait sur place. Ça se produit, c'est pas forcément toujours l'idée principale qui nous guide dans les colloques, mais c'est à ces occasions-là qu'on peut effectivement trouver une personne ressource à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Et qu'on peut solliciter, et là c'est plutôt vraiment mon côté...
C'était aussi l'occasion de thèse en co-tutelle,
oui, voilà,
notamment, pour les doctorants.
Et puis ça peut être aussi un expert qu'on sollicite pour dire, tiens, on est en train de démarrer telle recherche, c'est quelqu'un vraiment d'expert en la matière, tiens, il faut qu'on pense à lui demander de rédiger peut-être quelque chose sur ce sujet-là. C'est plutôt comme ça que ça se passe.
En quoi les établissements de l'enseignement supérieur ont-ils un rôle dans les enjeux européens et internationaux ?
Oh, alors là, il y en a plusieurs. Alors, d'abord, la première, j'allais dire le premier niveau, c'est l'aspect pédagogique et recherche, hein, c'est-à-dire effectivement enseigner le droit de l'Union européenne, le droit des États membres de l'Union, et puis enclencher des recherches sur plusieurs universités, enfin avec plusieurs partenaires universitaires, comme je viens de vous l'indiquer. Alors, de manière plus générale, je pense qu'il y a aussi un rôle important en matière de lien avec les territoires par rapport à des régions, par exemple, pour articuler peut-être des politiques de formation, des stratégies d'enseignement supérieur. Ça, ce serait peut-être plutôt le deuxième niveau. Puis, j'allais dire, il y a un niveau auquel je crois beaucoup, c'est le troisième. L'université a toujours été un espace de liberté. Je pense que c'est ça qui est important aussi à l'heure actuelle, où on voit qu'il y a un certain nombre de restrictions parfois à l'accès aux universités dans certains pays, pour certaines modalités, et dire finalement que l'université, c'est un lieu dans lequel on peut quand même brasser beaucoup d'idées, où on peut argumenter, discuter, et encore une fois, qui est un vrai espace de liberté qui doit être, à mon avis, je ne prends pas simplement le cas de la France, un modèle, ou en tout cas une espèce quelquefois de phare dans la nuit quand le contexte international fait qu'il y a des remises en cause un peu systématiques de certains enseignements ou disons de certaines limitations dans le domaine politique ou social.
D'ici 2030, les universités sont censées avoir plus de liberté, vous en avez parlé, et de responsabilité. Aujourd'hui, on en est où ?
Alors, il y a eu le premier acte sur la loi LRU, hein, la fameuse loi liberté, enfin là sur les responsabilités universitaires, bon, qui a effectivement été un premier pas vers l'autonomie. Alors après, on pourrait discuter parce que qu'est-ce que c'est exactement que l'autonomie financière pour les universités lorsque une part non négligeable provient quand même d'une subvention de l'État. Bon, après, ça, ce sont des discussions politiques dans lesquelles je ne rentre pas. En revanche, l'acte 2, hein, le deuxième acte de l'autonomie, qui avait déjà été annoncé d'ailleurs par le président Macron et présenté en avril dernier par la ministre Sylvie Retailleau, est plus diffus dans la mesure où c'est sur certains points précis que l'autonomie serait développée pour des établissements qui s'engageraient dans cette démarche. Alors l'autonomie, oui, elle est réelle dans la mesure où les présidents d'université ont quand même beaucoup plus de possibilités et de gestion directe de leurs établissements. Il y a des marges de manœuvre en termes de ressources humaines, peut-être d'innovation et de recherche, etc., qui sont sans doute plus importantes qu'avant. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, à mon avis, encore pas mal de travail à faire sur les grands équilibres entre les universités, sur les modalités de regroupement entre sites universitaires. Bon, tout ça, c'est encore à déterminer. Mais il y a eu effectivement une évolution importante à partir des années 2007-2010, ça c'est clair.
L'un des points qui va être évoqué lors du colloque, c'est l'intérêt des villes d'avoir des universités dynamiques pour l'attractivité du territoire. Quelle est la stratégie de l'Université de Limoges ?
Alors, l'Université de Limoges a, je crois, mais de longue date, hein, noué, et vu l'intérêt, surtout, et noué des partenariats avec les différentes collectivités territoriales, j'allais dire, proche ou moins proche compte tenu de la réforme de la carte régionale. Donc évidemment, l'Université de Limoges était extrêmement proche de la région Limousin lorsque celle-ci existait. Les liens étaient évidemment constants. Pour une raison d'abord évidente, c'est qu'on avait qu'à traverser la rue pour essayer de démêler une difficulté ou pour dire tiens, on a un projet qui peut peut-être vous intéresser. Bon, avec la région Limousin, les liens ont été toujours très importants. Bon, moi avec le département, ce qui est logique, parce que effectivement, ce n'est pas dans la liste des compétences départementales, enseignement supérieur, et puis avec les villes, les métropoles. Bon, c'est vrai que l'Université de Limoges a la particularité de figurer quand même, d'intervenir sur plusieurs villes dans les trois départements de l'ancien Limousin. Donc c'est vrai que je crois que l'université a toujours eu à cœur d'essayer d'accompagner la stratégie des collectivités, soit en tout cas peut-être de contribuer à dynamiser telle ou telle orientation des collectivités territoriales. Je pense à des éléments en recherche, on en a pas mal dans le domaine des sciences par exemple, il y en a eu dans le domaine juridique, il y en a eu dans le domaine économique, il y en a eu évidemment en médecine, enfin bon, je veux dire, on aurait évidemment pas mal d'exemples, mais je crois que ce qui est important pour l'Université de Limoges et actuellement dans le contexte dans lequel on est de crise économique, peut-être sociale, etc., c'est d'affermir et de conforter ces partenariats. Alors, bon, les plus solides et les plus durables, voilà, la ville de Limoges, la métropole, donc Limoges Métropole, le CHU, la région, bon, tout ça, je pense que c'est extrêmement important d'arriver à construire une sorte de stratégie globale qui permette de valoriser tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison, et surtout de développer des politiques complémentaires, puisque les différents établissements ou les différentes collectivités interviennent dans les domaines qui sont les leurs, bien entendu, mais il y a nécessairement des intersections et des croisements qui, à mon avis, peuvent vraiment s'engager dans la théorie du gagnant-gagnant. Moi, j'en suis à peu près convaincu, et je crois qu'il faut vraiment continuer à ce qui a été initié depuis pas mal d'années et le renforcer compte tenu du contexte.
Et actuellement, nous avons effectivement l'université, une convention tripartite, Université de Limoges, Limoges Métropole, Ville de Limoges. Alors, un peu asymétrique pour l'instant, avec un plan d'action plus affirmé avec Limoges Métropole et des financements. Et pour avoir vu récemment le maire de Limoges là-dessus, on va renforcer cette coopération avec la ville, parce que la ville est très intéressée par l'écosystème universitaire à trois points, là, notamment le développement de la qualité de vie étudiante à travers le logement, la culture, et effectivement la lutte contre la précarité étudiante. Donc toutes ces questions-là intéressent beaucoup aussi la ville, comme l'agglo, et comme Hélène Pouléa l'a très bien dit, même si la compétence dans la loi NOTRe de l'enseignement supérieur, la recherche, elle est régionale. Pour nous, faisant partie des 6 universités de Nouvelle-Aquitaine, on a aussi, sur notre territoire de l'ex-Limousin, des cartes à jouer privilégiées avec ces deux collectivités principales, de par leurs compétences, que sont la ville et Limoges Métropole, même si ça n'empêche pas d'avoir aussi des liens avec le département pour des projets plus spécifiques. L'Université de Limoges est ce qu'on appelle une université multisite. Nous avons aussi des sites de proximité sur Brive, Tulle, Guéret, Aigleton. Et donc, avec la Creuse et la Corrèze, nous avons des relations partenariales très fortes et effectivement des projets en commun. Nos campus de Brive, de Tulle, d'Aigleton et de Guéret sont importants et portent à la fois des formations spécifiques et de la recherche spécifique. Et les collectivités locales, notamment celles de Brive et de Guéret, sont très impliquées dans un processus partenarial pour nous aider à avoir des campus dynamiques, performant, d'avoir une qualité de vie étudiante, et on entretient avec ces collectivités, pas uniquement avec les collectivités de Limoges, mais avec ces collectivités du territoire, des relations partenariales fortes, non seulement en termes de fonctionnement, mais maintenant aussi sur Brive, avec de l'investissement pour notamment rénover et améliorer la vie sur le campus de Brive.
C'est bien le signe que les collectivités territoriales, les communes, les villes ont conscience de l'attractivité que peut amener une université.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire, ça change même le profil de certains métiers territoriaux, puisque bien que ça ne soit pas dans leurs compétences directes, plusieurs villes ont auprès d'elles des fonctionnaires ou des élus en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce qu'effectivement, ils ont compris que Avoir une université sur son territoire, c'est un élément de développement et d'attractivité de celui-ci.
Justement, gagnant-gagnant, c'est intéressant pour l'université d'avoir des partenariats, mais pour les collectivités aussi d'avoir une université forte sur son territoire.
Ça joue forcément en termes d'attractivité. C'est tout un écosystème, c'est ça l'idée, c'est que chacun n'est pas posé sur le territoire. L'idée, c'est de sortir des logiques de projets en silo, mais de développer de la transversalité, chacun dans ses compétences, chacun dans les missions de service public qui sont les siennes, de voir comment, en alliant les compétences, on participe à créer un terreau favorable à l'implantation effectivement des entreprises. Les entreprises ont besoin de savoir, ont besoin de métiers. Il y a deux partenaires qui soutiennent Europa, c'est Enedis et EDF. Derrière, ils ont leurs propres écoles face à même des universités de type privé. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de l'université publique ? Qu'on soit capable de former au métier de demain. Je sais qu'EDF, ils ont je ne sais pas combien de milliers d'emplois qui attendent dans le nucléaire. Nous avons des facs de sciences, nous avons un IUT, nous avons des laboratoires Xlim qui ont de l'expertise aussi à apporter. Donc, il y a aussi cette orientation entre nos filières de formation et les métiers à déboucher peut-être effectivement immédiate sur le territoire. Alors ce qui est une vraie question pour les universités, c'est pas l'ancienne présidente d'université qui dira son contraire, c'est que la question majeure aujourd'hui, c'est la soutenabilité de notre offre de formation. Alors il y a une vraie question qui se pose, est-ce qu'on continue à faire des formations généralistes dans tous les domaines, ou est-ce qu'aussi on met une signature sur nos formations pour les orienter, alors pas toutes, mais au moins certaines, vers des besoins qui correspondent au bassin économique et de l'emploi du territoire sur lequel l'université est implantée.
Vous parliez de la région tout à l'heure. Maintenant que les trois régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin sont réunies, est-ce qu'il y a une concurrence entre les universités ?
Je ne pense pas. Alors là, je ne suis plus président d'université qu'il y a longtemps, donc je ne vais pas répondre de manière totalement directe. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une concurrence entre les universités. Ce qui est important, je pense, c'est qu'on essaie de continuer à se parler. Je sais que c'est le cas, hein, puisqu'il y a une convention de coordination territoriale qui permet justement aux universités de se parler entre elles, et donc d'éviter peut-être d'avoir des... Alors des formations, je ne dis pas évidemment les formations de base, hein, au niveau des licences, mais d'essayer de voir, chacun dans son domaine, quelles sont les spécialités qu'il met en avant. Et à ma connaissance, il n'y a quand même pas beaucoup de spécialités qui sont complètement l'exact équivalent dans les différentes structures. Donc je crois que l'important, c'est d'essayer d'abord de se parler, justement d'éviter la concurrence dans la mesure du possible, parce que je pense que c'est quelque chose de faisable, et puis surtout d'essayer de continuer à développer des projets en commun, parce que justement, il vaut mieux dégager des complémentarités que des concurrences.
Oui, il aurait plus à la coopération au niveau de Nouvelle-Aquitaine, hein, puisque vous savez que chaque université est à obligation de trouver une forme de coopération avec d'autres. Hein. On a vu l'échec des fusions ou des communes, mais en tout cas Limoges, comme ses cinq autres congénères, on est membre de la convention de coordination territoriale, où on a des véritables échanges plutôt de bonnes pratiques, même pour essayer d'avancer ensemble sur pas mal de sujets qui nous concernent tous. Donc l'heure est plutôt à la coopération entre universités, j'ose dire publiques, si tant est qu'il y ait une concurrence, elle est plutôt avec les établissements privés et des universités privées qui commencent à proliférer.
Et une dernière chose sur ce colloque, justement, avec encore cette année de beaux invités, notamment une ancienne ministre qui va rester toute la journée.
Alors oui, on a la chance d'avoir la présence et la participation très active de Sylvie Retailleau. Alors, Hélène Pollier avait eu déjà l'occasion de la croiser. Nous, dans l'organisation du colloque, c'est quelqu'un qui est très facile d'accès, qui a très envie de venir. Et donc, on se réjouit effectivement d'accueillir Sylvie Retailleau. Elle sera d'ailleurs entourée d'autres membres illustres de France Université. on accueille le président Roussel, qui est président de l'université Gustave Eiffel. On a Frédéric Forest, hein, qui a été DGCIP, qui est aujourd'hui inspecteur général de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, il y a un très beau panel. Alors, je ne vais pas les citer tous parce que je vais en oublier un et il va terriblement m'en vouloir. Et puis, on aura, je pense, aussi un message. Alors, il ne sera pas en direct, mais en vidéo, de Patrick Hetzel, donc l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'est pas inconnu du territoire, puisque ça a été un ancien recteur de l'Académie de Limoges, donc pendant quelques années. Et donc, effectivement, ça sera l'occasion de voir aussi, puisque le ministre a dévoilé sa feuille de route à la presse le 19 novembre dernier, peut-être y aura-t-il des éclaircissements ou des précisions qui seront apportées à cette occasion. Donc, pour nous, c'est intéressant. Et vraiment, sur ce colloque, je pense que on a tapé à une bonne question, puisque tout le monde, plutôt à tous les niveaux, et plutôt, comme vous voulez dire, à très haut niveau, les gens ont répondu favorablement et ont envie de venir débattre de cette question.
Et tous ces échanges, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Alors ça, là, je vais laisser répondre en détail Hélène Poyer, parce que... un universitaire reste un universitaire, un chercheur reste un chercheur, et la présidente d'Europa ONG, il aurait été insupportable que des colloques restent sans suite. Et donc la suite pour un chercheur, c'est quoi ? C'est publié.
Oui, c'est
donc nous publions.
Voilà. Les actes du colloque sont, sont publiés. Hein. On a une collection maintenant qui commence à être assez étoffée. Et donc on les publie, et surtout on essaie aussi de les diffuser le plus largement possible, parce que quand il y a des exemples de bonnes pratiques ou éventuellement des recommandations qu'on pourrait faire, on essaie de les diffuser un peu plus largement. Voilà. Donc c'est l'idée. Et puis c'est bien aussi que ce soit diffusé dans d'autres pays de l'Union, comme ça au moins ça permet de continuer à phosphorer et puis éventuellement peut-être de continuer un travail de recherche par des réponses à des appels à projets.
Donc il est traduit en plusieurs langues ?
Alors non, parce que notre éditeur, c'est les éditeurs.
Non, c'est les éditeurs Armatan. Et ce qui se passe en général, c'est qu'il accepte cependant que ce soit publié en français et dans la langue de l'un des intervenants, alors qu'il n'est pas francophone. Bon, en général, c'est français-anglais, mais la plupart du temps, la totalité de l'ouvrage est en français.
Et nous, on ne publie pas que chez notre éditeur, puisqu'il ne faut pas oublier que Europa, c'est un réseau européen. Et par exemple, nous avions fait il y a quelques années un colloque fort intéressant au Conseil de l'Europe, sous l'impulsion de notre collègue espagnol, sur les politiques des migrants en Europe. Hein. Donc, et cet ouvrage a été publié chez un grand éditeur, on va faire la publicité là, mais qui a été à la fois en langue anglaise et qui vient d'être traduit en allemand aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le site d'Europa, qui est open source, vous trouverez aussi ce colloque qu'on avait fait. Et on s'apprête l'année prochaine, avec le Conseil d'Europe, on va réitérer... donc Europa, le CNFPT et le Conseil de l'Europe à faire un colloque international sur l'éducation en Europe, notamment sur l'accès à l'éducation. C'est quelque chose qu'on prépare pour juin à peu près 2025.
Et la thématique du colloque de l'année prochaine ?
Alors ça, c'est après Noël.
Voilà, c'est après Noël.
C'est après la dinde, les marrons et le foie gras, que généralement Hélène Poulia et moi rendons visite à notre maître à tous, qu'on a évoqué tout à l'heure, Robert Savy, et qu'on discute de quelques idées qui pourraient bien nous traverser pour l'année à venir. Donc, alors ça, c'est le tout début du prémisse, mais après, très sérieusement, on a dans les instances d'Europa ce qu'on appelle la conférence des vice-présidents, qui réunit tous nos vice-présidents européens. Et donc, on vérifie si nos idées sont bonnes, c'est-à-dire est-ce que le sujet qu'on a envie de traiter pour l'année qui s'ouvre a une résonance ou un écho particulier dans un nombre signifiant des pays du réseau. Et puis, autre chose qu'on prend en compte, est-ce que justement, sur le territoire, cette problématique à laquelle on décide de s'attaquer a du sens. Voilà un peu comment on se fabrique au début le thème du colloque européen.
Est-ce que le thème peut être similaire à un qui a déjà existé avant ?
Alors ça se peut, parce qu'on commence à avoir abattu pas mal de sujets. Notamment, on a décidé avec Hélène Poulia, à partir de 2016, on avait des thèmes, avant 2016, on avait des thèmes plus généraux. Et on a décidé, justement, en ouvrant la collection chez l'Armatan, de prendre des politiques publiques. On a commencé avec... effectivement, le vieillissement des populations, la silver economy, puis, comme Hélène l'a évoqué tout à l'heure, on a fait les transports, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, les sports l'année dernière, mais il y avait le côté, effectivement, de l'année olympique et paralympique. On a fait le développement économique, cette année l'enseignement supérieur. Donc, voilà, l'idée, c'était quand même de lire ces politiques à l'aune de deux grands axes qui les traversent, c'est quand même comment ces politiques résonnent-elles dans les autres pays, ça vous l'avez compris, mais aussi comment sont-elles impactées par les transitions écologiques. Parce que, enfin, aujourd'hui, c'est un des axes aussi par lesquels on regarde nos sujets, c'est quel est l'impact aussi des politiques des mouvements de transition écologique sur sa politique publique. Et un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est aussi comment ça bouge en termes de cohésion sociale ou de cohésion territoriale. Voilà un peu les fils rouges qui unissent l'ensemble des colloques européens sur les politiques.
Hélène Polia, professeure de droit public à l'Université de Limoges et présidente d'Europa, et Michel Seminon, délégué général d'Europa et directeur général adjoint de l'Université de Limoges, étaient nos invités de cette chronique sur la 28e édition du colloque Europa du vendredi 29 novembre 2024. Pour le Graal, Zélia Garraud de la radio Émergence.